Texte 7. La nature de la connaissance scientifique par un exemple, la chute des corps, texte écrit par Évariste Sanchez Palancier. Dans la vie courante, l'adjectif scientifique a souvent les connotations exact, sérieux, objectif ou mettant en œuvre des moyens difficilement contestables mais qui font souvent peur. Par exemple, la police scientifique fait des tests d'ADN, qui sont confiés le plus souvent à trois laboratoires indépendants. La coïncidence de leurs conclusions est censée éliminer les erreurs de manipulation ou d'interprétation qui auraient pu se glisser dans l'un d'eux. Curieux. Force est d'admettre que l'idée que cela sous-tend n'est pas celle d'exactitude, mais celle de quête d'exactitude. Après tout, il y a une trentaine d'années, les tests d'ADN étaient inconnus. Il y avait une police scientifique qui utilisait les empreintes digitales, considérées de nos jours comme insuffisamment précises et donc inutiles lorsqu'on peut faire mieux. D'une façon générale, la connaissance scientifique n'est pas exacte, mais approchée. Les théories nous permettent de comprendre approximativement des parcelles de la réalité, et la recherche consiste principalement en un travail d'élaboration et d'amélioration des théories. C'est ce que je me propose de montrer avec un exemple, celui de la chute des corps. Je connais un peu trois types de chutes, il y en a probablement bien d'autres. Premièrement, la chute des petits corps denses, pièces de monnaie et autres. Deuxièmement, la chute des feuilles, d'arbres ou de papier. Troisièmement, la chute des chats, censés tomber sur leurs pattes. Je me propose de commenter de façon succincte ces types de chutes, leur domaine de validité et d'exactitude, plutôt les marges d'erreur de leur théorie, le type de connaissances associées à chacun d'eux, et dans la mesure du possible, de donner des éléments historiques sur la façon dont on est arrivé à cet état de connaissance destiné, en tout cas je l'espère et le souhaite, à être dépassé et perfectionné grâce à la recherche. Pour mémoire, nous sommes le 8 mai 2013. Premièrement, la chute des petits corps. Les lois de la chute des corps ont été établies par Galilée et font partie des découvertes que l'on considère comme fondatrices de la science moderne. Galilée a dégagé ses lois à partir d'expériences. Cela a l'air trivial de nos jours, mais à l'époque, c'était une extraordinaire nouveauté. Avant Galilée, je schématise, la source de connaissance de la nature était la lecture de livres faisant autorité par le prestige de leurs auteurs, notamment la physique d'Aristote ou la Bible. Lorsque Galilée invitait ses détracteurs à regarder le mouvement des satellites de Jupiter à l'aide de la lunette qu'il avait construite, il refusait. La connaissance des cieux se trouvait dans les textes sacrés. Pourquoi verrait-on dans la lunette des satellites dont on n'avait jamais entendu parler, au lieu des choses que Galilée lui-même aurait mises dans son étrange instrument ? Galilée est un génie dont nous concevons très difficilement les magnifiques exploits. Il est le premier scientifique, au sens moderne du terme. Galilée conduit des expériences variées sur la chute des corps, notamment du haut de la tour de Pise. Ce point n'est pas historiquement confirmé. Mais surtout, en faisant rouler des billes sur des plans inclinés, ce qui lui permet d'observer le mouvement au ralenti. Il découvre des coïncidences remarquables. En abandonnant la bille sans vitesse initiale, celle-ci tombe en s'accélérant, si bien que les distances parcourues sont proportionnelles au carré des temps et bien d'autres choses. Trajectoire parabolique lorsque le corps est lancé avec une vitesse initiale par exemple, qui constitue les lois du mouvement uniformément accéléré, l'accélération étant due à la pesanteur. Galilée fait cela pour des chutes dans l'air de quelques centimètres ou quelques mètres. Nous savons à présent que, en plus de la pesanteur, l'air exerce une force de résistance au mouvement qui modifie le mouvement uniformément accéléré. Par exemple, les parachutistes sportifs qui font des chutes libres se jettent d'un avion à quelque 5000 mètres d'altitude. Dans une première phase, la chute est approximativement uniformément accélérée. Mais lorsque la vitesse augmente, et avec elle la résistance de l'air, l'accélération diminue et la vitesse se stabilise à quelque 200 km/h. C'est alors qu'ils effectuent des acrobaties que l'on voit souvent à la télévision pour ouvrir finalement leur parachute à l'approche du sol. Ce mouvement est extrêmement complexe car il met en œuvre aussi bien le mouvement du corps qui tombe que celui de l'air environnant. Nous reviendrons sur ce point à propos de la chute des feuilles. Il est clair que les expériences de Galilée ne concernaient que des cas où les vitesses étant relativement petites, seule la force de la pesanteur était significative, car les effets de la résistance de l'air étaient indécelables avec ces instruments de mesure rudimentaires. Les lois de la chute des corps uniformément accélérées trouvées par Galilée sont utiles avec une très bonne approximation pour les cas usuels de la vie de tous les jours. Chute de petits corps denses, tels que les pièces de monnaie. Mais elles sont inopérantes lorsque la résistance de l'air devient significative ou lorsque les grandes distances font que la pesanteur ne peut plus être considérée comme approximativement constante. Ainsi, les trajectoires des planètes sont elliptiques, Kepler et Newton, au lieu de paraboliques. Deuxièmement, la chute des feuilles. Dans les situations habituelles, les feuilles tombent dans l'air. De par leur forme et leur petite épaisseur, elles mettent en mouvement l'air autour d'elles, bien plus que les petits corps denses. Leur mouvement est indissociable de celui de l'air environnant que nous ne voyons pas. Dans la chute d'une feuille, nous voyons la feuille. Mais pour y comprendre quelque chose, nous devons tenir compte du mouvement de l'air environnant, qui s'écarte certes pour laisser tomber la feuille, mais qui ne manque pas d'appliquer des forces dites aérodynamiques sur la feuille, modifiant le mouvement de celle-ci par rapport à celui qu'elle aurait eu dans le vide. Il en résulte un type de mouvement tout à fait curieux et intéressant. Si par exemple, la feuille est abandonnée en position à peu près horizontale. Elle gagne de la vitesse dans sa chute et l'air agit sur elle avec une force de résistance de plus en plus importante qui freine sa chute en même temps que la feuille commence à se déplacer horizontalement car dans cette direction, la résistance opposée par l'air est petite. La feuille se met à planer, un peu comme un oiseau lorsque ses ailes sont immobiles. L'action de la pesanteur est pratiquement annulée par la force dite de portance de l'air. La feuille est portée par l'air. Mais il y a une différence importante entre la feuille et l'oiseau quand il plane. La feuille n'est pas faite pour planer et elle est déséquilibrée par les deux forces de portance et du poids, comme un oiseau qui aurait les ailes trop en avant par rapport à son corps. La feuille tourne en se cabrant. Son bord avant se soulève. La feuille se met un peu en travers de son mouvement d'avancement presque horizontal et perd de sa vitesse, qui produisait la portance. Le phénomène qui se produit alors s'appelle le décrochage. La feuille arrive à être presque immobile, et faute de portance, elle retombe comme au début de son mouvement. Le processus se répète. Chute, vol plané, décrochage, chute, etc., jusqu'à l'arrivée au sol ou à un autre obstacle. Quelle impression vous a fait la description qui précède? Peut-être la trouvez-vous un peu complexe, artificieuse et tout compte fait un peu inutile, car il y a trop d'éléments pour avoir une description globale et pas assez d'explications pour saisir le pourquoi des choses. S'il en est ainsi, vous avez tout à fait raison. C'est un problème extrêmement complexe, faisant intervenir des phénomènes et des théories difficiles et variées, qui sont la matière de recherche actuelle. Parmi ces théories se trouve le chaos déterministe, avec son fameux effet papillon, qui intervient dans le mouvement dit turbulent de l'air, mis en mouvement par la chute de la feuille et qui réagit sur elle. Oui, un élément que j'ai omis dans ma très succincte description est que tout cela est éminemment instable. Cela signifie que de toutes petites modifications des données, orientation initiale de la feuille, façon de la lâcher, très léger mouvement de l'air produit par une exposition inégale à la chaleur, etc., produisent à la longue des modifications très importantes du mouvement, notamment lors d'un décrochage. Le vol plané suivant peut démarrer dans une direction pratiquement arbitraire, à droite, à gauche, en arrière et même en avant, pour des causes infimes qui sont souvent présentes. C'est d'ailleurs pour cela que, après la première phase de chute, la feuille se met à planer presque à l'horizontale dans une direction pratiquement imprévisible. Et bien entendu, lors d'une promenade dans un bois en automne, vous trouverez des feuilles étalées par terre. En prenant une, vous ne saurez pas de quel arbre elle provient. Vous pourrez peut-être estimer qu'elle provient de l'un des plus proches, etc. Tout cela est très différent des lois très précises de la chute des corps denses étudiée par Galilée. Troisièmement, la chute des chats. Un chat tombe dans l'air, certes, mais il est assez dense. Les phénomènes évoqués lors de la chute des feuilles ne devraient pas avoir une grande incidence. Un chat est vivant. C'est certainement bien plus important. On a pensé longtemps que les êtres vivants avaient un principe vital, dont la nature mystérieuse et jamais définie leur conférait un statut spécial, différent de celui des corps inertes, lesquels constituaient le domaine par excellence des sciences dites physiques qui s'occupent de la chute des corps, de l'attraction universelle et bien d'autres choses. Oui, mais la loi de la gravitation universelle opère sur tous les corps. Elle est universelle. Il n'y a pas d'exception pour les corps vivants. C'est certain. C'est pour cela que les corps vivants tombent. Finalement, le principe vital n'explique rien. Il a été abandonné comme inutile. Et pourtant, les corps vivants tombent, mais pas comme les autres. Pourquoi et comment ? En fait, il n'y a pas une grande différence entre la chute des corps inertes et celle des êtres vivants peu développés. Les différences apparaissent pour des êtres dotés d'un système nerveux bien développé, capables d'avoir des modèles mentaux de certaines parcelles du monde extérieur. De quoi s'agit-il ? Les systèmes nerveux des animaux supérieurs dont nous faisons partie sont capables de produire des représentations simplifiées et schématiques de certains éléments du monde. Elles sont partielles, parfaitement distinctes des éléments représentés, et elles ne concernent pas seulement ce que les choses sont, mais aussi comment elles évoluent, agissent entre elles, et surtout avec le sujet pensant. Ces représentations ont des natures variées. Certaines, les réflexes, sont parfaitement involontaires, inconscientes et automatiques, intégrées dans le patrimoine génétique des individus. Ces modèles mentaux permettent au sujet de prendre en compte l'avenir ou les avenirs possibles, parfois de façon erronée, pour réagir dans un certain but, et ceci de façon consciente ou inconsciente suivant les cas. Il y a en fait trois types de chutes de chat ou de facettes dans une grande chute. Lors d'une longue chute dans l'air, un chat tombe à une vitesse stabilisée entre 60 et 100 km à l'heure. C'est la vitesse à laquelle son poids est exactement équilibré par la résistance de l'air. Pour un homme, comme nous l'avons indiqué, elle est de quelque 200 km à l'heure. Le chat, plus léger proportionnellement à la surface qu'il présente à l'air, augmenté aussi par son pelage, tombe bien plus lentement que l'homme, surtout s'il réussit à tomber à plat sur son ventre, pattes déployées. Pour arriver à cette position idéale, s'il commence sa chute dans une autre attitude, le chat dispose d'un mécanisme inné, le réflexe de redressement. Il s'agit d'une suite de mouvements nullement triviaux, répétés plusieurs fois si nécessaire. La géométrie de ces mouvements, possible grâce à leur colonne vertébrale très flexible, rappelle un peu, c'est une analogie lointaine, les rotations complexes du cube de Rubik, alors que la dynamique évoque plutôt, c'est également une analogie, la prestation d'une danseuse de ballet tournant sur ses pointes, qui, en serrant ou en écartant ses bras, augmente ou diminue spectaculairement la vitesse de rotation de son corps. Ce remarquable réflexe nécessite, pour être mis en œuvre, une hauteur d'au moins 1,50 m. Pour les chutes plus petites, le mécanisme utilisé pour le chat est bien plus élémentaire. Lorsqu'il comprend qu'il va tomber, il sort ses griffes et s'accroche. C'est plutôt lui-même qui se lâche après avoir imprimé avec ses muscles un mouvement rotatif à son corps qui doit le conduire lors de sa chute à une arrivée par terre au moment où ses pattes seront en bas. Conclusion. La science est notre connaissance de certaines parcelles de la nature, de leur interaction et de leur évolution. Contrairement aux apparences, les lois scientifiques sont simples, en tout cas bien plus simples que l'infinie variété des questions ouvertes auxquelles elles s'appliquent et apportent des éléments de réponse toujours partiels et approchés. C'est ce caractère partiel et approché qui suscite de nouveaux sujets de recherche. La recherche a une vitalité propre et les chercheurs vivent une insatisfaction constante qui les pousse à perfectionner, à comprendre. Je dirais même que les chercheurs n'est satisfait que dans une insatisfaction continue. Si vous réfléchissez un peu, vous verrez facilement que cette phrase n'est pas contradictoire et qu'elle donne la clé de l'évolution des connaissances.